Radio Grand Ciel présente Bee Jazz, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Cette année, nous vous proposons une flânerie musicale à travers les courants et l'évolution du jazz. Nous avions évoqué le mois dernier les années 50, du cool jazz au free jazz. Aujourd'hui, nous poursuivrons notre promenade à travers les années 60. Et pour ce faire, nous retrouverons Patrick Durand, un médecin passionné de jazz et qui joue dans plusieurs formations, et Gilles Secaz, un journaliste guitariste qui a été marqué très tôt par la musique d'Henri Crolla. Vous pouvez les retrouver tous deux dans plusieurs orchestres de jazz et notamment un réveillon dans l'Orne. Bonjour Patrick Durand.
Christiane Blain, bonjour.
Bonjour Gilles Secaz.
Bonjour Christiane Blain.
Alors maintenant, nous aborderons Stan Getz, 1964. Alors, que pouvez-vous nous dire, Gilles Secaz?
Christiane, les années 60, rappelons-le, c'est l'avènement de la bossa nova, un style qui nous vient du Brésil, un style de musique qui nous vient du Brésil, qui est articulé autour des rythmes de la samba, mais en beaucoup, beaucoup plus lent, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus intellectuel. Et parmi les principaux interprètes, et en tout cas compositeurs de la musique bossa nova, nous retrouvons Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Juan Gilberto, et un Américain qui s'est entiché de cette musique, qui est le saxophoniste Stan Getz. En 1965, Stan Getz, Juan Gilberto, Astrud Gilberto sont en concert au Carnegie Hall, et cela donne ceci.
Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely! This is where I want to be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. I who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence. So my love,
cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela, vê se o Corcovado Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Thank you.
Stan Getz, saxophone, Jean Gilberto à la guitare et au chant, Astrud Gilberto, la femme de Jean Gilberto, au chant également. C'est un concert mémorable, donc enregistré au Carnegie Hall. On apprécie tout de même ce son très suave, très caractéristique de Stan Getz. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de Stan Getz, Christiane?
Je peux vous dire que c'est un des plus grands joueurs de saxophone ténor.
Mais encore.
Avec un son très spécifique, bien sûr. Un son qu'on reconnaît un petit peu partout, c'est effectivement ce son peut-être qu'il a peaufiné au moment des Bossa Nova. Parce que si je me souviens bien, avant il était un son peut-être un peu moins velouté. Allez, on va dire que la Bossa Nova l'a lissé un petit peu plus.
Peut-être.
Il en a abusé.
C'était alors parlez-nous de la Bossa Nova,
le côté langoureux de la Bossa Nova. Bon, la Bossa Nova, comme je le disais tout à l'heure, c'est une espèce de vague, comme son nom l'indique d'ailleurs. Mmh. C'est la nouvelle vague de la musique brésilienne. Elle s'inspire donc des rythmes de la samba. Et en même temps, elle utilise des harmonies très très particulières qui sont propres à la manière de jouer des Brésiliens, notamment des guitaristes brésiliens. Et puis, elle prend son essor, son développement, grâce à des gens comme Vinicius de Moraes, qui était un diplomate, poète. Écrivain, chanteur, qui était assez extraordinaire, grâce évidemment à Antonio Carlos Jobim, qui a composé les plus belles musiques de la Bossa Nova. C'est une période qui a duré très peu de temps.
On connaît à peine, on connaît le mot, oui. Mais on ne voit pas toujours à quoi ça correspond.
Ça correspond à une espèce de vague de contestation d'une jeunesse aisée du Brésil. Et ça s'arrête au moment où le Brésil bascule dans la dictature.
C'est souvent lié à la politique.
C'est lié à la politique. Et les gens, les instigateurs de cette Bossa Nova vont se manifester contre cette dictature par la chanson. Mais la Bossa Nova va disparaître petit à petit. Enfin, disparaître, c'est un grand mot, puisqu'on la pratique toujours, on la joue toujours aujourd'hui.
Oui. Mais on ne savait pas forcément à quoi ça correspondait.
Voilà. Nous arrivons en 1965. 1965, c'est l'année du pianiste, chef d'orchestre, compositeur, arrangeur, claviériste, Herbie Hancock. Et c'est l'année de son album, The Eye of the Hurricane, dont nous allons écouter le titre éponyme. Il est accompagné de Freddie Hubbard à la trompette, de George Coleman au saxophone ténor, Ron Carter à la basse et de Tony Williams à la batterie.
Thank you.
Herbie Hancock. Et puis la seconde section rythmique du grand Miles Davis autour de Herbie Hancock, qu'on va retrouver en 1966 avec le saxophoniste Wayne Shorter sur un morceau qui s'appelle Footprints, qui est extrait de l'album Adam's Apple, la pomme d'Adam. Donc on retrouve autour de Wayne Shorter Herbie Hancock, et puis Reggie Workman et à la basse, et Joe Chambers à la batterie. Wayne Shorter. Wayne Shorter et son fameux Footprints de l'album Adam's Apple. Christiane, quelques mots sur Wayne Shorter ?
Eh bien, c'est un saxophoniste, un compositeur de jazz américain. Il est actif en fait depuis les années 50 et il fait aujourd'hui figure de légende vivante dans le domaine du jazz, non seulement je dirais en tant que musicien, mais aussi en tant que compositeur.
Oui, et puis il fait partie de ces incontournables des années 1960, en tout cas de la deuxième moitié des années 60,
oui.
Tout comme Herbie Hancock, tout comme McCoy Tyner, que nous allons écouter maintenant. McCoy Tyner, dont on pourrait dire quelques mots, Patrick. Nous allons écouter Blues in the Corner, c'est extrait de l'album The Real McCoy. Il est entouré de Joe Anderson au saxophone, de Ron Carter à la basse et de Delvin Jones à la batterie. Michael Tyner, c'est un de tes préférés, Patrick, si je ne me trompe.
Oui, ça fait partie des pianistes vraiment qui m'ont marqué très très fortement, tout simplement pour l'avoir vu sur scène avec Coltrane à la grande époque, on va dire. Je voulais dire en tout cas que Wayne Shorter, pour autant qu'il a joué avec pratiquement tous les musiciens connus, McCoy Tyner n'a pas jouer avec grand monde, et même à l'heure actuelle, ils préfèrent beaucoup jouer en petite formation ou même en solo. Le jeu de McCoy est très, on va dire, il a antinomique par rapport au jeu de Herbie Hancock. Herbie Hancock aime bien des phrases très rassemblées, des choses qui tournent autour de même thème. Tandis que McCoy Tanner adore faire ce qu'on appelle les accords brisés, c'est-à-dire des intervalles assez importants entre chaque note. C'était en tout cas la caractéristique qu'il avait à l'époque de Coltrane, avec les grands morceaux qu'il a pu enregistrer avec Coltrane. Il a gardé aussi cette façon un petit peu particulière de jouer. Et alors, bien sûr, les déméchantes langues diront que, au point de vue technique, il n'était pas très brillant, mais il a un jeu très particulier et moi qui me touche beaucoup. Voilà, donc McCoy Tyner avec son jeu classique un petit peu désarticulé qui fait penser à Coltrane. Bon, McCoy et Coltrane sont vraiment inséparables. Nous allons écouter une musique un petit peu différente. D'abord parce que ça sera le grand Miles et que Miles joue de la trompette à sa façon.
On est en 1968, oui, effectivement, et Miles est au sommet de sa gloire. Mais c'est une gloire un peu commerciale. Enfin, à mon sens, c'est pas le Miles Davis d'Ascenseur pour l'échafaud. Et Miles est au firmament de sa carrière. D'ailleurs, son album s'appelle Miles in the Sky. Et on va écouter un titre qui s'appelle Paraphernalia. Il est entouré d'Herbie Hancock. Une fois de plus, de Wayne Shorter, encore, de Ron Carter, à nouveau, Tony Williams et un petit nouveau à la guitare qui s'appelle George Benson. Paraphernalia, Miles Davis, 1968. Thank you. Patrick, si je ne me trompe pas, il me semble que là, nous sommes vraiment dans la transition entre le Miles Davis acoustique de ses débuts jusqu'au milieu des années 60, au Miles Davis électrique que l'on connaît jusqu'à la fin de sa vie, au début des années 2000.
Et effectivement, qui est un Miles Davis électrisant qui fait pour le grand public. Parce que ça, c'est quand même une musique qui est jazz toujours, mais avec des tempos, des sonorités, des accompagnements, des orchestres absolument différents. Bon, ça fait partie de l'expérimentation que Miles Davis, qui a connu la gloire et qui pouvait se permettre un petit peu n'importe quoi, avait décidé d'expérimenter, de faire des sonorités différentes. Oui.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il savait également mettre en scène tout cela. C'était une des grandes forces de Miles Davis, c'est cette fameuse mise en scène de talents multiples. On parlait d'Herbie Hancock, il a eu Keith Jarrett.
Tout le monde est passé chez lui.
D'ailleurs, on va retrouver notre ami Herbie Hancock dans le morceau que nous allons écouter maintenant, qui est un morceau de Miroslav Vitus, tiré de l'album Mountain in the Clouds. Ça s'appelle Freedom Jazz Dance. C'est tout un programme. On retrouve Joe Anderson au saxophone ténor, Herbie Hancock bien sûr au piano, Jack DeJohnette à la batterie et John McLaughlin à la guitare.
Retrouvez-nous, chers amis auditeurs, le mois prochain pour la suite de cette émission, les années 20, l'âge du jazz, une période en fait qui s'étend de la fin de la Première Guerre mondiale au début de la dépression aux USA et qui marque l'essor du jazz. Chers amis, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Patrick Durand.
Merci Christiane Blain.
Merci Christiane Blain.
Thank you.